le 6-9 sur France Inter.
Et la revue de presse avec vous, Alexandra Dubouchon. Un mot ce matin, anniversaire.
Anniversaire qu'on ne fêtera pas demain, celui de Georges, un Libanais né il y a presque un an, le 4 août 2020, dans un hôpital en ruine. C'était quelques minutes, quelques secondes après l'explosion du port de Beyrouth. Alors par respect pour les victimes, 200 morts, plus de 6000 blessés, ses parents ne fêteront pas l'anniversaire de leur petit garçon miracle, c'est ce qu'il confie à Libération. Le quotidien publie 4 pages ce matin sur l'enquête sur l'explosion. Beyrouth, un an après, une enquête qui sent le soufre, écrit Libé sous la plume d'Ala Kodmani, son envoyé spécial dans la capitale libanaise où le mystère se fait plus opaque à mesure que la liste des suspects et des soupçons s'allonge. La journaliste raconte les pressions exercées sur certains témoins ou protagonistes, la démission d'un juge, ses assassinats ou ses morts suspectes ces derniers mois d'intellectuels et d'officiers liés de près ou de loin à l'enquête officielle. Plusieurs interlocuteurs de la journaliste lui ont d'ailleurs demandé l'anonymat, ce qui n'est pas le cas de l'experte Human Rights Watch au Liban, cité plusieurs fois dans ce long reportage, et qui réclame une enquête indépendante. Car enquête officielle, l'enquête officielle, elle, traîne. Et les poursuites qui auraient pu être prononcées se heurtent à l'immunité dont bénéficient plusieurs anciens ministres et hauts gradés libanais. Pourquoi y avait-il plus de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, produit hautement explosif, stocké dans le port? Pourquoi c'était là depuis 6 ans? Qui est l'acheteur? Quelle est la cause de l'explosion? Beaucoup de questions sans réponse. Mais le quotidien liste les pistes sérieuses, celle de la Syrie derrière cette cargaison, celle d'Israël derrière l'explosion et au milieu le Hezbollah. Beaucoup de soupçons forts, mais aucune preuve formelle. Et dans ce pays meurtri, ruiné, l'impuissance de la justice face à ces ingérences violentes et impunies a fait sombrer au plus bas la confiance de la population en l'avenir, écrit Dov Alfond dans l'éditorial de Libération, rappelant à la veille de la conférence de Paris sur le Liban, rappelant qu'il serait illusoire de traiter uniquement de l'aide économique à l'État libanais, tant sa faillite apparaît politique, sociale et morale.
Dans la presse aussi ce matin, Alexandra, la politique du t-shirt.
Ouais, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur TikTok ou Instagram, vous avez peut-être vu cette photo d'Emmanuel Macron en t-shirt depuis le fort de Brégançon, se filmant visiblement lui-même et s'adressant doctoral aux jeunes Français inquiets, sceptiques ou indécis face à la vaccination. L'opération vérité du docteur Macron sur les vaccins, titre avec une pointe d'ironie sud-ouest ce matin. Après les manifestations de ce week-end, 200 000 personnes dans les rues, l'exécutif craint une évolution du type gilet jaune, décrypte leséchos.fr. Un exécutif à la recherche de sa ligne de crête entre marginalisation des opposants les plus radicaux et pédagogie envers les indécis. Cabéléon, le président, mais attention, prévient Olivier Bacuza dans l'éditorial de l'Opinion, c'est à double tranchant à vouloir s'ériger à nouveau en président épidémiologiste, prétendant apporter des explications plus claires que les scientifiques ou le gouvernement, il trouble encore un peu plus la communication des pouvoirs publics, écrit le rédacteur en chef adjoint de l'Opinion. Et ce, alors même qu'il s'adresse, le président, à ceux qui ont manifesté dans un rejet quasi systématique des sachants et des élites. Cette communication estivale est nécessaire pour montrer qu'on est sur le pont, même en vacances, analyse de son côté l'Humanité, qui consacre justement un long dossier ce matin aux fausses informations à propos des vaccins.
Des vaccins et des regrets.
À la page Covid, vous lirez dans l'Express les témoignages de ces vaccino-sceptiques contaminés qui expriment des regrets. Témoignages qui se multiplient, affirme l'hebdomadaire sur son site, comme celui de Jessica, mère de famille américaine qui s'exprime en larmes devant les caméras. Son mari, anti-vax comme elle, a été emporté par le Covid il y a quelques jours, raconte-t-elle. Et avant de mourir, il lui a envoyé ce SMS « J'aurais dû faire ce fucking vaccin ». Permettez-moi d'employer le mot anglais. Alors depuis, Jessica a reçu sa première dose, elle a lancé une collecte de fonds et elle se fait le chantre de la piqûre. Oui, mais si vous ne pouvez pas être vacciné, si vous avez suivi un traitement pour une maladie immunodépressive, par exemple, et que votre généraliste vous déconseille le vaccin, aujourd'hui, le gouvernement n'a fixé que 3 contre-indications pour pouvoir être exempté. Sauf que certains Français ne rentrent pas dans ces cases. C'est la zone grise, témoignage à lire dans Libération, oui, à nouveau. C'est la double peine, déplore ainsi une enseignante citée par le journal. D'un côté, je ne peux pas me protéger du virus, mais en plus, je suis contrainte de ne plus bouger de chez moi. Selon le quotidien, cette passe sanitaire touche bien plus que quelques centaines de personnes, comme l'affirme le ministre de la Santé. Et puis, autre récit à lire dans Nice matin, celui de ces 82 CRS de Montauban, arrivés dimanche à Nice pour relever leurs collègues de Marseille. Sauf que 4 Marseillais ont été testés positifs au Covid et les locaux n'ont pas été nettoyés. Les Montalbanais ont donc préféré passer la nuit dans leur voiture. En avril déjà, des CRS de Lyon avaient refusé de dormir dans ce bâtiment insalubre et jugé incompatible avec l'épidémie.
Et puis les espions décidément font la une aujourd'hui. L'invité de 7h50, vous l'avez peut-être entendu sur Inter, c'était Nicolas Bedos, réalisateur du dernier OSS 117 et qui sort demain au ciné. Là, Alexandra, vous nous parlez d'espions légèrement plus modernes.
Oui, ultra modernes même. Hein. C'est en tout cas le souhait du ministère des Armées qui s'apprête à déménager le siège de la DGSE, ses services secrets, dans le fort du Bois de Vincennes, 12e arrondissement de Paris. Vincennes, donc, futur nid d'espions. Vous pourrez lire les détails du projet dans vos journaux Le Parisien et Le Monde, dans la limite du possible, évidemment, car on parle d'un site ultra sensible. On nous explique que l'actuel siège dans le 20e arrondissement depuis plus de 50 ans prend la poussière. Franchement, pas à l'image qu'aimerait renvoyer le service. Sauf qu'on nous parle bien d'un projet hors norme, rappelle Le Monde, à coup de déconstruction, reconstruction et aussi de dérogation, quitte à déplacer certaines lignes rouges dans une zone naturelle et forestière de 20 hectares. Le plan local d'urbanisme de la ville de Paris l'interdit, mais qu'importe. Le chantier sera classé projet d'intérêt général. Un décret a été déposé mi-juillet. En clair, la mairie s'incline devant la volonté étatique. Et le journal précise qu'on sera sûr que 31 espèces protégées ont bien été repérées sur ce site, comme le martinet noir ou l'hirondelle de fenêtre, mais a priori aucune suffisamment remarquable pour chambouler les travaux qui s'achèveront en 2028.
Alexandra Dubucheron pour la revue de presse de ce mardi 3 août. France Inter.